1er janvier 2037. Un homme vient de se poser sur Mars. La voie est enfin ouverte au voyage interstellaire. Prochaine étape, la plus grande planète du système solaire, Jupiter. L'homme est grand, l'homme est fort, l'homme est intelligent. Aujourd'hui, Mars, demain, Jupiter, et ensuite, le reste de l'univers.
Ça fait rêver, hein? Eh bien non, on en est encore loin, et pourtant, de nombreux espoirs sont permis. En effet, 50 ans après Spoutnik, le premier satellite artificiel de la Terre, 38 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, l'espace extra-atmosphérique attire encore et toujours les convoitises.
Et plus particulièrement, celle de deux grandes puissances, la Chine et les États-Unis. Mais les ambitions de ces deux pays sont différentes. Alors que la Chine se contente pour l'instant de sonder la surface de la Lune, les États-Unis, eux, veulent y retourner en 2020.
L'homme n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà été dans l'espace par le passé. Souvenez-vous.
Vous reconnaissez ce bip-bip ? C'est celui de Spoutnik. Première création humaine, lancée le 4 octobre 1957 par les Soviétiques. Cette petite boule de métal est le fruit de recherches sur les armes nucléaires. Nous sommes alors en pleine guerre froide. Peter Lagroux, historien à l'ULB.
On voit qu'il y a une rivalité, une course aux roquettes, qui débute en pleine guerre mondiale. On voit que dès l'origine de la guerre froide, il y a un enjeu technologique, il y a une course technologique, et cette course technologique a à voir, si ce n'est avec l'espace, en tout cas avec des techniques qui ont un rapport très étroit à cela.
Fort de son premier succès, l'URSS continue d'impressionner le monde. Le 21 avril 1961, elle envoie le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Ses exploits sont de véritables gifles pour les Américains.
Il y a ce qu'on appelle le Spoutnik Complex, l'énorme choc que les États-Unis ont eu quand ils ont dû constater que l'Union soviétique avait pris de l'avance en matière technologique de découverte de l'espace.
Les États-Unis ne perdent pas de temps. Ils veulent gagner cette course à l'espace. Leur objectif principal, envoyer un homme sur la Lune. Des moyens humains et financiers considérables sont débloqués. L'Amérique entière s'unit pour atteindre son but. Théo Pirard, journaliste spécialiste de l'espace.
Ça, c'est une des choses, une des forces de l'Amérique, c'est qu'elle sait se mobiliser, faire union, ici pour gagner ici la course à la Lune.
Et ça fonctionne. Le 20 juillet 1969, Apollo 11 se pose sur la Lune et deux Américains, Neil Armstrong et Edwin Aldrin, foulent le sol lunaire.
One small step for man, one giant leap for mankind.
Le but est atteint. Mais si la manœuvre est impressionnante, l'avancée scientifique qu'elle entraîne n'est pas réellement utile. Peter Lagroux.
Le fait d'envoyer des hommes sur la Lune, la plus-value scientifique par rapport à la difficulté de l'entreprise, était tout à fait limitée, mais il s'agissait de frapper fort et de frapper l'imaginaire. Et donc, il y a autour de cela toute une mise en scène. C'est un petit pas pour un homme, c'est un grand pas pour l'humanité.
Après ça, l'URSS réalise qu'elle ne peut plus concurrencer seule les États-Unis. Elle envisage alors la collaboration internationale.
Aujourd'hui, cela fait longtemps que la guerre froide est terminée. Si les États-Unis gardent la première place, ils ont maintenant face à eux un adversaire de taille, la Chine. Et à chaque nation, son programme spatial, Théo Pirard.
Alors actuellement, donc les États-Unis ont décidé d'arrêter l'utilisation de la navette spatiale. Qu'en 2010, les trois navettes qui existent encore seront envoyées au musée. Donc c'est terminé. Donc fin 2010, c'est terminé. Mais les Américains vont continuer avec leurs partenaires internationaux l'exploitation de la station spatiale internationale.
Et pour faire passer la pilule de l'abandon de la navette, George Bush, le président américain, veut faire un dernier coup d'éclat. Autoriser la NASA à envoyer des Américains sur la Lune. Mais ce ne sera pas chose facile.
Maintenant, la grande inconnue qui se situe, est-ce que vraiment les Américains auront les moyens de retourner sur la Lune ? Ça n'est pas encore budgétisé vraiment de manière très précise. Et pour l'heure, on attend un petit peu le résultat des élections qui vont avoir lieu l'année prochaine aux États-Unis. Parce que si c'est un autre président d'une autre couleur, je dirais de couleur démocrate, ça risque de changer la donne.
Si les États-Unis, fidèles à eux-mêmes, exposent clairement leur programme, la Chine, quant à elle, adopte une autre attitude.
Alors les Chinois, disons, sont beaucoup plus discrets, ça retrouve un petit peu la problématique qu'on avait avec l'Union soviétique dans les années, entre les années 50 et les années 90, quand l'Union soviétique est tombée.
Et toujours comme les soviétiques, les Chinois se servent de l'espace pour souder la nation, mais aussi à des fins de propagande.
Vous oubliez que la nation chinoise est formée d'une quantité de peuples qui parlent des langues différentes, et le Parti communiste utilise l'espace pour dire « je suis encore là », même si c'est un système libéral, donc moi je suis encore là pour faire des grands programmes, comme faire des vols habités autour de la Terre.
Malgré sa discrétion, la Chine a livré quelques informations. Chang'e, le programme chinois, explorera la Lune à l'aide de robots jusqu'en 2017.
Alors que les États-Unis promettent le retour de l'homme sur la Lune en 2020, les Chinois sont plus prudents. Ils évoquent cette idée sans avancer de date.
Mais ça ne serait pas impossible que quand les Américains retourneront sur la Lune, ils soient accueillis par une délégation chinoise.
La Lune exerce donc toujours son pouvoir d'attraction sur l'homme, mais elle ne l'aveugle pas pour autant. D'autres intérêts spatiaux plus importants priment sur l'exploration lunaire. Éric Remacle, politologue à l'ULB.
Les nouveaux enjeux sont très liés à deux types de problématiques, à mon avis. Un type de problématique est plutôt de nature civile et l'autre de nature militaire, mais les deux sont en interaction forte. De nature civile, c'est l'accentuation de la nécessité de contrôler un certain nombre de flux de nature différente.
Tels que des flux de marchandises et surtout des flux de télécommunications. N'oublions pas que celui qui contrôle l'information a un pouvoir considérable.
Et puis alors il y a le volet plutôt militaire plus stricto sensu, qui est de plusieurs natures aussi. C'est, me semble-t-il, surtout deux types de questions. La première, c'est le développement d'armements anti-satellites. L'autre grand dossier, c'est le bouclier spatial des États-Unis, donc qui est théoriquement présenté comme une protection contre des attaques de missiles venant de l'extérieur, mais qui a surtout comme grand avantage, s'il était déployé, de contribuer à créer une prédominance américaine sur le contrôle de l'espace extra-atmosphérique.
C'est bien joli tout ça, ces boucliers, ces satellites, mais tout n'est pas permis. On ne peut pas faire n'importe quoi.
En effet, il existe des règles quant à l'exploration de l'espace extra-atmosphérique. Pierre Klein, professeur de droit de l'espace à l'ULB.
Il existe sur le plan international une série de 5 traités internationaux qui ont été adoptés dans le cadre des Nations Unies. Le premier de ces traités date de 1967 et c'est un traité qui pose les principes essentiels relatifs à l'utilisation et à l'exploration de l'espace extra-atmosphérique et des corps célestes. Le traité de 67 reste le traité le plus important, le plus fondateur, et il pose, entre autres, comme principe essentiel, le principe de la liberté d'utilisation de l'espace et le principe de la non-appropriation des corps célestes.
Autrement dit, aucun État qui se livre à une activité spatiale ne peut prétendre exercer sa souveraineté sur un corps céleste comme il le ferait sur son territoire terrestre.
Si en théorie le traité de 1967 interdit toute utilisation militaire de l'espace, en pratique les choses sont bien différentes.
Les États se sont orientés vers des utilisations de l'espace qui avaient une portée militaire et la compréhension qu'on a généralement retenue de l'interdiction de la militarisation de l'espace, c'est essentiellement le fait de ne pas utiliser l'espace à des fins agressives. Donc si on l'utilise à des fins défensives, c'est une utilisation qui n'a pas été comprise comme étant contraire à ce principe d'interdiction de militarisation de l'espace.
Donc, même si la présence chinoise dans l'espace inquiète les Américains, ils ne peuvent rien faire tant qu'il n'y a pas d'agression de la part de l'Empire du Milieu.
Mais qu'est-ce qui dérange exactement les États-Unis ? Pourquoi veulent-ils à tout prix garder la main mise sur l'espace ? Éric Remacle.
C'est le contrôle de l'espace lui-même qui est l'enjeu. Parce que dès lors que vous contrôlez l'espace extra-atmosphérique, vous contrôlez effectivement les télécommunications. Donc vous avez les moyens de menacer indirectement les autres. Ça ne signifie pas évidemment que cela dégénère. Au contraire, généralement, s'il y a un contrôle, c'est celui qui contrôle qui dicte les règles du jeu. Puisque l'intérêt de contrôler l'espace, c'est l'intérêt aussi de sanctuariser son propre territoire.
Mais la conquête spatiale, ça coûte cher, très cher. Pour tout le monde. Et la plupart du temps, l'argent vient du contribuable. Aujourd'hui, le budget américain est sérieusement amputé par la guerre en Irak. Le pays de l'oncle Sam doit donc faire face à d'autres priorités.
Quant à la Chine, bien qu'elle dispose d'un avantage certain, le faible coût de sa main-d'œuvre, elle doit faire face à ses problèmes de politique intérieure et gérer son explosion économique récente.
Conclusion, que l'on soit chinois ou américain, pour continuer à explorer les étoiles, la seule solution possible, c'est la collaboration internationale. C'est une hypothèse qui est déjà envisagée par les deux nations.
D'une part, les États-Unis sont liés à la Russie et à l'Europe dans différents programmes, notamment celui de la Station spatiale internationale. D'autre part, la Chine a établi un programme commun avec le Brésil et un autre programme est en cours avec la Russie, le Japon et l'Inde.
Unir ses ressources intellectuelles et financières est donc le seul moyen pour gagner cette course. La Chine et les États-Unis y parviendront peut-être, ensemble.